Information, sport, culture, découvertes et rencontres surprenantes. Jusqu'à 11h, vous écoutez le magazine du week-end.
Weekend Extra. 7h23, avant d'aller dans le vif de l'actualité, on surveille pour la semaine prochaine l'ouragan Florence qui devrait toucher les Carolines quelque part autour de jeudi et devrait monter. Puis là, on parle, je dis l'ouragan, c'est un peu... On soupçonne que ça deviendra un ouragan parce que présentement, c'est une tempête tropicale qui se prépare au large des côtes de la Floride, mais ne devrait pas normalement toucher la Floride. Vous devrez toucher les Carolines, remonter vers le Maine. Et vous connaissez le phénomène, entre autres, si vous êtes au sud du Québec, lorsque des tempêtes tropicales ou des queues d'ouragan viennent toucher la côte est américaine, on en ressent les effets, entre autres par des précipitations assez abondantes que l'on devrait connaître donc en début de semaine prochaine. Bon, parlons maintenant de cette campagne électorale où l'enjeu... Avant d'aller dans l'enjeu de l'immigration, parce que ça occupe pas mal aujourd'hui, parlons entre autres de ce qui a été présenté hier, entre autres pour la Coalition Avenir Québec, qui a trouvé son poulain dans Saint-Jean pour remplacer... le candidat qui a dû se retirer, entre autres, c'est l'animateur Louis Lemieux, qui était animateur à RDI, qui a fait un bref moment, une brève incursion dans le monde de la radio et qui maintenant va remplacer le candidat Laroche et qui va tenter de venir sortir le député sortant, qui est un député péquiste dans la circonscription de Saint-Jean. On a parlé de quoi, entre autres? Bon, on a parlé dans les autres promesses d'une espèce de YouTube québécois. Ça, c'est Québec solidaire qui nous a présenté ça. On est revenu, entre autres, sur l'immigration avec les... entre autres, je vais y aller avec le Parti libéral là, qui a promis 1500 nouvelles places en CHSLD d'ici 2022. La CAQ a dit qu'ils allaient présenter leur cadre budgétaire également quelque part avant le premier débat qui est prévu la semaine prochaine. Et le Parti québécois, je termine avec eux parce qu'ils sont revenus sur l'immigration, parce que l'immigration monopolise la question maintenant depuis, 48 heures. Et c'est François Legault qui l'a amené dans le débat. Et il voulait, je pense, prendre de court, je pense que c'est assez évident, là. Il voulait prendre de court le Parti québécois qui, lui, sur sa position sur l'immigration, est un peu flou. Et disons-le, là, pour ce qui est, on connaît la position du Parti libéral là-dessus. On connaît la position de Québec solidaire. La CAQ a dévoilé sa position et il y avait un terrain plutôt vague pour le Parti québécois. Et Jean-François Lisée, entre autres, n'a pas voulu rentrer sur la qualité ou le genre de personne que l'on voudrait accepter ici. Mais il a établi les seuils entre 35 000 et 40 000 immigrants par année. Il y a un sondage qui paraît aujourd'hui. Sondage intéressant s'il en est un. Sur nos perceptions face à l'immigration. En gros, là, puis je ne vous assommerai pas de chiffres. Le Québec des régions, hors des grands centres, trouve qu'il y a trop d'immigrants au Québec. La perception est beaucoup moins élevée, et quand je parle de beaucoup moins élevée, là, c'est pratiquement tendance inverse, là, sur l'île de Montréal. Par contre, le Québécois n'étant pas non plus à un paradoxe près, il soutient que l'immigration amène entraîne du positif dans l'économie pour résoudre, entre autres, les problèmes de main-d'œuvre dans un paquet de coins. Et ce que l'on trouve, c'est en gros ça, là. Donc, les questionnements, c'est qu'on se dit, il y a trop d'immigrants, ils sont mal intégrés, mais on considère que c'est positif le rapport à l'économie. Et il y a vraiment un clivage, je vous dirais, entre les grands centres, Montréal en particulier, mais aussi Québec, qui a une perception qui est assez positive, je vous dirais, qui est pas... mais il y a un enjeu général, c'est-à-dire qu'il y a, si on prend l'ensemble des répondants québécois, c'est qu'il y a un ensemble de Québécois qui trouvent qu'il y a trop d'immigrants. Mais je vous interpelle, puis elle, tu sais, on est beaucoup dans les idées reçues, on est beaucoup dans de la perception, puis moins dans le factuel. Dans tout ce qui a été présenté hier de la campagne électorale. Puis depuis que l'enjeu de l'immigration est débattu en campagne électorale, vous allez voir beaucoup de gens qui sont campés dans leur position. La presse a fait un petit jeu C'est-à-dire, ils sont allés voir les affirmations des chefs de parti, puis ils ont vérifié la véracité. Est-ce vrai que le Québec a perdu le contrôle de son immigration? L'an passé, 2017, le Québec a accueilli 50 388 immigrants. Sélection d'entre eux, on parle de 30 262, c'est-à-dire que le Québec les a choisis, des immigrants économiques. Pour le reste, 12 000, c'est sous la compétence d'Ottawa, et il y a eu 9 000 demandeurs d'asile. Donc, autrement dit, l'an dernier, le Québec a choisi à peu près 60 % des immigrants qui sont arrivés ici, et la proportion est à peu près toujours la même d'année en année. Autre affirmation, la majorité des immigrants qui arrivent au Québec ne parlent pas français. On disait que 59 % des nouveaux arrivants au Québec ne parlent pas français. Qui a dit ça? C'est le chef de la CAQ, François Legault. La proportion était de 58 % en 2017, 53 % en 2016. Le Québec, le Canada a accueilli un grand nombre de réfugiés, notamment des Syriens. Durant la décennie de 2006 à 2015, les gens qui ne parlaient pas français représentaient entre 35 et 44 % d'entre eux. Autre chose également, les immigrants qui ne parlent pas français à l'arrivée ne l'apprennent pas par la suite. Ça, c'est une autre affirmation qui avait été faite par François Legault. Bon, là, on peut se disputer ces chiffres à savoir quel est leur niveau de connaissance du français. Mais après évaluation, après 10 ans à leur arrivée, 90,5 % des immigrants économiques, 77,1 % de ceux qui sont arrivés par les réunifications de famille, parce que ça, il ne faut pas l'oublier, ils font partie d'un grand nombre d'entre eux, là, et 84 % des réfugiés parlent le français. Donc, on parle de chiffres quand même qui sont assez importants. Mais bon, ils parlent le français, mais à quel niveau est leur connaissance? Ça, c'est une autre histoire et ce n'est pas décliné dans les informations que j'ai ici. Le Québec perd une grande proportion de ses immigrants. À vérité, là, on perd quoi? Là? C'est à peu près 26 % annuellement des gens qui viennent ici puis à un moment donné, au bout d'un certain temps, décident de s'en aller. Or, tu prends la moyenne canadienne et le Québec est à peu près dans la moyenne canadienne. Ça semble être le cas partout. On n'intègre pas le marché du travail. Le taux de chômage qui est de 14,1 après 5 ans. En 2017, c'était vrai. Par contre, si on prend ceux qui ont entre 25 et 54 ans, pour le même groupe d'âge, depuis plus de 5 ans qui sont ici, ils représentent 7,6 % sur le chômage, alors que c'est de 4,5 pour la population générale québécoise. Est-ce que la grande majorité de ceux qui viennent ici sont des musulmans? Comme semblent croire plusieurs, entre autres, qui parlent d'immigration. La réponse est non. La grande majorité ne sont pas des musulmans. Oui, il y a eu une proportion de gens qui sont arrivés du Maghreb, d'Algérie. Il y en a d'autres qui viennent de la France, du Maroc, d'Haïti, entre autres. Puis on a parlé beaucoup de gens, des réfugiés qui sont venus de la Syrie. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que la Syrie, pour plusieurs des immigrants syriens qui sont arrivés ici, ce sont des chrétiens qui ont fui le pays justement parce qu'ils étaient persécutés soit par l'État islamique ou par le régime en place. Donc, ceci dit, si ça vous tente, là, c'est dans la presse plus. Puis il y a d'autres chiffres comme celle-là, comme ceux-là qui sont témoignés. D'ailleurs, l'immigration, c'est pas un point unique de débat ici au Québec. D'ailleurs, les Suédois entrent en élection, là, et il y a une montée de l'extrême droite. Puis ils ne formeront pas le pouvoir, là, mais ils peuvent accéder, entre autres, ils ont certains sièges dans des communes où ils sont un peu plus importants. Et le gros point sur lequel se bat l'extrême droite suédoise, c'est sur l'arrivée massive d'immigrants. Il faut comprendre qu'ils en ont reçu beaucoup plus que nous. Là. On parle d'arrivée sur une population de 10 millions, 400 000 à peu près dans cette vague de migrants qui sont arrivés. Et pourquoi les gens se dirigeaient vers la Suède? Bien, il y a un tissu social qui est important, puis il y a des conditions qui sont favorables, qui ont été favorables à l'immigration. C'est un des endroits per capita qui en a reçu le plus avec l'Allemagne. 400 000 demandeurs d'asile depuis 2012, comme je vous le rappelle, sur une proportion qui est quand même assez faible. Puis sur l'Orsund, qui est un détroit qui entre le Danemark et la Suède, il y a un pont qui relie là, Malmö et Copenhague. On a fermé justement pour les sans-papiers l'arrivée par cet endroit-là, qui est un point névralgique. Ça prend 10 minutes de traverser l'autre bord. Et ce que l'on voit, c'est qu'on voulait justement freiner, puis ça faisait pression sur l'État-providence, et ça a fait mal. Et ce que l'on dit, c'est que surtout, bon, dans les régions suédoises, c'est un pays qui n'a pas été... Le gros de l'immigration suédoise, là, ça a été beaucoup des pays voisins. Finlande, Danemark. Norvège, les pays, des autres pays scandinaves. Mais c'est un pays qui, longtemps, n'a pas été très ouvert à l'immigration et qui était peuplé. On parle, là, c'est une fraction du pourcentage et ça ne représente pas. La société canadienne et même québécoise est beaucoup plus métissée que peut l'être la société là-bas. On en parle aujourd'hui dans les quotidiens, si le tout vous intéresse un peu. Il y a des inéquités en santé, entre autres, ça touche les régions du Québec. Les gens qui se promènent, entre autres, puis c'est pas rare de voir des gens qui vont faire des centaines de kilomètres parce qu'ils ne peuvent pas avoir les services de santé, qui normalement, ils payent les mêmes taxes que vous, ils payent les mêmes impôts que vous, mais pourtant, vu qu'ils habitent des régions qui sont plus démographiquement démunies, c'est-à-dire qu'il y a moins de monde, bien, s'ils ont besoin de soins spécifiques, ils doivent faire des kilomètres et des kilomètres pour se rendre à distance. Et on dit, c'est un problème parce que ça pose iniquité. Les gens qui habitent les territoires éloignés, ils savent. Mais souvent, facile de dire, qu'ils vendent leurs affaires puis qu'ils viennent rester plus proches des centres, c'est facile à dire quand on est le spectateur. Mais pour d'autres, ça amène, tu sais, t'as un enfant qui est malade, les deux personnes ont un emploi, puis de se décentraliser comme ça, des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et il y a des solutions qui sont présentées aussi. On dit meilleur transport aérien. Le taux de 13 cents du kilomètre de remboursement qui est donné est ridicule, devrait être plus élevé que ça. Et entre autres, la télémédecine qui, selon des chercheurs, est sous-utilisée. Puis ça, c'est impressionnant quand même, les coûts. Émanation d'arsenic préoccupante, c'est dans l'est de Montréal. C'est une entreprise qui fait de la transformation de métaux, CCR, qui, dans les taux qui ont été mesurés par la santé publique, rapport qui est sur le site Internet, qui n'a pas été présenté publiquement plus qu'autre chose, on dit que les proportions, justement, en 2018, concentration d'arsenic d'un quartier de l'est de Montréal, 200% la limite fixée par la santé publique. 2011, les émanations étaient même de 400%. Le seuil maximal accepté. Et là, on dit, bon, on travaille là-dessus. Puis, écoute, l'entreprise a été tellement ciblée. Quand le Journal de Montréal leur a téléphoné, que c'est National qui répond pour eux, le cabinet de relations publiques. Là. Et on dit, ouais, mais ils ont ajouté, puis ils ont investi de l'argent, puis ils ont investi dans des équipements. Et malgré tout, ça semble être encore un problème. Donc, tout ce qui est gens qui habitent le secteur, là, à proximité de cette usine-là, vous n'êtes pas loin de la rue Notre-Dame, pas trop loin du fleuve aussi. Ça peut poser. On dit que le risque est quand même faible pour les gens qui habitent aux alentours, malgré tout, là, mais c'est surtout pour les travailleurs de l'usine ou pour la santé à long terme, ce ne serait pas une très bonne chose. Je vais manquer de temps, là, mais je voulais vous parler d'autres choses également en lien avec l'ALENA. Ça a été ce que l'on apprend aujourd'hui, c'est que pourquoi dans le Globe and Mail, pourquoi ça a chopé? Il y avait une entente entre le Mexique et le Canada pour faire front commun contre les États-Unis. Puis semblait-il que le Canada s'est fait pas. On dit, coudonc, les Mexicains ont signé un deal de leur bord puis ils ont comme pas respecté la poignée de main qu'ils avaient avec le Canada. Bien, semblait-il que le Canada avait joué par en arrière aussi. Puis les Mexicains s'en sont rendus compte au mois de mai. Puis on dit, ah, OK, vous voulez faire votre petit deal de votre côté en nous laissant de côté? On va faire la même affaire. Et ce serait comme ça que l'entente qui était intervenue entre les deux pays pour faire front commun serait tomber. Et ça va faire mal à la diplomatie également. Le New York Times qui rapporte aujourd'hui qu'il y a eu des rencontres entre l'administration américaine et des rebelles vénézuéliens pour faire un coup d'État pour débarquer du pouvoir Nicolas Maduro. Lui, ce sont les prétentions. Le pouvoir vénézuélien carbure à ça depuis des années, ce qui a toujours été démenti par Washington. Ben, il y a des informations qui arrivent du New York Times qui est en train de nous dire finalement que oui, c'était en préparation. On reviendra sur d'autres nouvelles tantôt, il est 7h37.